round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, dans ce second cas, eh bien, bienvenue, welcome, tout ce genre de choses, que 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part vers la fin du 19e siècle. Je ne le fais pas par contre à chaque émission, mais ce jour je vous rappellerai que notre générique est bien évidemment, une musique de film, en l'espèce celle d'un petit bijou signé Blake Edwards, 1962, George Peppard et Audrey Byrne sont dans les rôles principaux. Henry Mancini est à la baquette de Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé en français, et la chanson Moon River que vous venez d'entendre, eh bien, elle obtint l'Oscar et tout ce genre de choses. Ce jour, nous allons rester de l'autre côté de l'Atlantique, puisque nous allons évoquer brièvement la carrière tout aussi brève d'un acteur fort tourmenté, Edward Montgomery Clift, né le 17 octobre 1901 à Omaha, au Nebraska. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste la Vox Populi, le Nebraska aux États-Unis. C'est vraiment le trou du monde des États-Unis, donc un coin relativement challenging, comme on dit, pour un jeune homme tourmenté. Très rapidement, Montgomery, qu'on appellera souvent Monty par choix de faire plus rapide. Monty Clift devient acteur. À 14 ans, il joue à Broadway déjà dans une pièce et devient rapidement acteur professionnel, donc sur la scène, au théâtre, à Broadway. En 1942, en pleine guerre, on le voit en vedette dans une pièce intitulée « The Skin of Our Teeth », la peau de nos dents, je dirais, en français, je ne connais pas, une pièce mise en scène par Elia Kazan, qui est, à l'époque est encore acteur de cinéma et pas encore le réalisateur fameux qu'il deviendra après la guerre. C'est un très gros succès, et évidemment, avec le succès à Broadway, viennent très rapidement les propositions cinématographiques, et le premier film dans lequel Monty Clift va tourner en 1948, eh bien c'est un western, le genre américain par excellence, et il sera opposé à tous les sens du terme, à vrai dire, au King, au Duke, on l'appelait en fait à John Wayne, tout simplement. John Wayne et Montgomery Clift pour son premier film, ça ne devait pas forcément être très facile, puisqu'en 1948, dans La Rivière Rouge, c'est le titre du film, eh bien John Wayne était déjà une vedette considérable depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et le film, donc bien que tourné en 1948, ne sortira que 3 ans plus tard, pour des raisons que je n'avoue, ma petite fiche n'a pas explicité. Il sortira après le second film de Monty Clift qui s'appelle Les Anges Marqués, The Search, de Fred Zinnemann, une star qui se passe quelque part en Allemagne, où l'on voit Monty Clift prendre en affection un jeune orphelin, un film qui a d'ailleurs vu l'objet d'un curieux remake il n'y a pas si longtemps par Michel Hazanavicius. Ce second film, eh bien, il vaudra à Monty Clift une première nomination à l'Oscar, et puis il lui vaudra un succès rapide et tout à fait extraordinaire. Très rapidement, dans les années 50, eh bien, Monty Clift devient l'idole de toute une génération, notamment de femmes et de jeunes filles, puisque son côté rebelle, il refuse de vivre à Hollywood, il choisit ses rôles, il ne veut pas entrer dans le système. Il avait sans doute une prédilection pour le théâtre, comme beaucoup d'acteurs qui en sont issus, font que très rapidement, le show business étant ce qu'il est, eh bien, justement, tout ce côté anti-système le font devenir un héros du système. Et en 1951, on va écouter un premier extrait d'une bande originale, je passe quelques films, sinon nous y serions encore demain. En 1951... Monty Clift se trouve face à Elizabeth Taylor, auprès de laquelle il jouera 3 fois et qui sera une femme très importante pour sa vie tourmentée, dans un film de George Stevens intitulé « Une place au soleil »,« A place in the sun » en anglais. On en parlera après, on en écoute un extrait. La musique, elle est de Franz Waxman, « Une place au soleil » dans 24 notes secondes. Thank you. un large extrait, en fait une suite de la bande originale d'Une place au soleil, une musique de Franz Waxman pour un film de George Stevens tourné en 1951. Alors les vieux cinéphiles, dont je suis, il faut bien être lucide, se souviendront peut-être que cette musique, eh bien c'était le générique de Cinéma Cinéma, une émission de cinéma culte du XXe siècle. À l'époque, on faisait des émissions de cinéma et pas simplement de la promo à la télé. Bref, une époque révolue, tout comme celle de Montgomery Clift, qui donc en 1951 eh bien, a atteint un premier sommet de sa carrière, brève et tourmentée, hein, puisque au risque de faire du divulgachage, Montgomery Clift ne tourna même pas 20 films pendant toute sa vie. Il faut dire que l'homme avait d'abord des gros soucis de santé, et puis, en tout cas c'est ce qui se dit, même si ça n'a jamais vraiment été établi, souffrait beaucoup d'une homosexualité qu'à l'époque à Hollywood, surtout quand on incarnait le jeune rebelle et le jeune premier idéal, on pouvait difficilement vivre au grand jour. Et c'est pour ça que j'évoquais Elizabeth Taylor tout à l'heure, puisque même si, bon, on peut en penser ce qu'on veut de la star, de la femme de Richard Burton, de tous ses excès, eh bien, Elizabeth Taylor fut pour Montgomery Clift une véritable amie et le soutint dans toute une vie qui fut pour part un large calvaire, même si elle connut quand même ses succès, et notamment en 1953, puisque Montgomery Clift fut l'une des vedettes de Tant qu'il y aura des hommes, From Here to Eternity de Fred Zinnemann, un film consacré à l'avant Pearl Harbor et qui obtint un succès phénoménal, colossal. Et Montgomery Clift, parmi bien d'autres, hein, Frank Sinatra par exemple, si je me souviens bien, et surtout, mais je vais retrouver, oui, Burt Lancaster et Deborah Kerr, dont personne n'aura oublié le baiser brûlant sur une plage avec les vagues qui parcourent leur corps presque nu, eh bien ce film qui aurait dû valoir à Montgomery Clift un Oscar, eh bien il ne l'eut pas au profit de William Holden, me semble-t-il, pour un film de Billy Wilder qui s'appelait Stalag 17, mais c'est à vérifier. Et il en fut tellement déçu que pendant 2 ans, il s'écarta des plateaux de tournage. Il ne tourna pas entre 1953 et 1957. Et quand on le revit, eh bien ce fut pour une super production où il retrouvait Elizabeth Taylor, un film qui se voulait être l'OTAN en emporte-le-vent de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est difficile d'être l'OTAN en emporte-le-vent de quoi que ce soit d'autre, puisqu'il y a autant d'emporte-le-vent et puis il n'y a rien d'autre en fait. Bon, les fans de 24 notes secondes savent déjà que Gone with the Wind, quelle que soit maintenant sa réputation plutôt sulfureuse, reste pour moi un des monuments du cinéma. Donc L'Arbre de Vie, c'est le titre du film en question, eh bien, fut une très grosse production de la Metro-Goldwyn-Mayer, mais un succès commercial beaucoup plus ténu. Et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Johnny Green, L'Arbre de Vie, dans 24 notes secondes. Thank you. Effectivement, ça ressemble un peu à du Max Steiner, le fameux compositeur de la bande originale d'Autant on emporte le vent, pardonnez-moi. Mais il s'agit de Johnny Green. Johnny Green pour un extrait de la bande originale de L'Arbre de Vie, un film d'Edward Mitrick tourné en 1957 d'après un roman de Ross Lockridge, qui est une sorte de succès d'année d'Autant l'emporte le vent, écrit par Margaret Mitchell, dois-je vous le rappeler. Donc un film en technicolor, magnifié par le directeur de la photo Robert Sortiz, 2h30 d'aventure autour de la guerre de sécession, avec assez paradoxalement Montgomery Clift dans le rôle d'un jeune homme très sain et Elizabeth Taylor dans celui d'une jeune femme très tourmentée, avec des origines de folie en fait. Elle finira d'ailleurs par sombrer dans la folie à la fin du film, alors même qu'à l'écran, à la ville, pardonnez-moi, mais c'était tout l'inverse, puisque Elizabeth Taylor, bien que ce soit Elizabeth Taylor, était d'une grande santé, alors que la principale caractéristique de L'Arbre de Vie, c'est que le 13 mai 1956, c'est-à-dire en plein tournage, eh bien Montgomery Clift fut victime d'un terrible accident de voiture qui a interrompu le tournage pendant presque 6 semaines. Pour un film, c'est quand même très très dur, surtout un film aussi cher. Et puis surtout, eh bien en fait, Montgomery Clift ne se remit jamais vraiment de cet accident de voiture, à la fois physiquement. Il est assez fascinant de voir son visage dans les films qu'il tourna après l'accident et avant l'accident. C'est plus du tout le même visage, même s'il n'y a pas de cicatrices ou autre. On sent que l'homme a souffert physiquement. Et puis surtout pour un être qui était déjà fort tourmenté, eh bien cet accident psychiquement, en fait, l'entraîna sur une pente descendante de laquelle il ne remonta vraiment jamais. Ça fait terrible à dire, d'autant plus que même s'il tourna encore peu de films après ce terrible accident, et après The Rain Tree Country, L'Arbre de Vie, qui certes pas un très très grand film, eh bien Monty trouva, lui, des rôles tout à fait passionnants. On le vit dans Le Bal des Maudits en 1958, toujours d'Edward Mitrick, et surtout on le vit une troisième et dernière fois aux côtés d'Elizabeth Taylor en 1959 dans Soudain l'été dernier, signé par Joseph Mankiewicz, une adaptation de la pièce de Tennessee Williams avec Elizabeth Taylor dans un maillot de bain que personne n'a oublié si on revoit sa photo, et puis Montgomery Clift dans un rôle tourmenté qui en fait lui allait absolument comme un gant parce que pardonnez-moi, eh bien il incarnait à l'écran à peu près la même chose que ce qu'il vivait dans sa propre existence. En 1960, toujours une merveille, on vit le fleuve sauvage, Wild River, d'Elia Kazan, dont on se souviendra que dans les années 40, eh bien il avait mis en scène Monty Clift à Broadway, et donc depuis lors il avait commencé une carrière cinématographique brillante, et notamment Monty Clift aurait pu être son interprète dans Sur les quais, qui vit exploser Marlon Brando. Mais Monty Clift, dans les années 50, eh bien, refusa beaucoup de rôles qui donnèrent leur chance à d'autres rebelles, comme l'on disait à l'époque, puisqu'il aurait pu être le héros de À l'Est d'Éden, ce fut James Dean, et même celui de La chatte sur un toit brûlant, ce fut Paul Newman. À quoi ça tient? On va écouter un extrait d'un autre film tout à fait funèbre, puisque les trois interprètes de ce film connurent un destin tragique peu de temps après son tournage. Je suis désolé, mais c'est la tournure de l'émission. Le film, il s'appelle Les Désaxés en français, The Misfits, à peu près la même chose en anglais. Il était réalisé par John Huston. La musique, elle est signée d'Alex North, le grand Alex North. On en dira un peu plus après, mais on écoute déjà un extrait. The Misfits, dans 24 notes secondes.
Thank you.
le puissant et sombre lyrisme du grand Alex North pour un extrait de la bande originale de The Misfits, Les Désaxés, un film de John Huston sorti en 1961, une musique parfaitement appropriée à cette histoire assez sombre, une sorte de néo-western où l'on voyait Clark Gable et Montgomery Clift aux côtés de Marilyn Monroe qui capturaient des chevaux sauvages pour les domestiquer, donc une métaphore en fait de l'existence. Le scénario de ce film, il était d'Arthur Miller, qui se trouvait être un des maris de Marilyn Monroe, même s'il ne l'était plus à l'époque du tournage. Et je vous le disais avant d'écouter cet extrait, eh bien voilà un film qui fut marqué vraiment par la mort, puisque sa vedette en était Clark Gable, et Clark Gable le mourut le 16 novembre 1960, deux jours après la fin du tournage. Autant dire que voilà un homme qui a quitté la vie comme il a quitté l'écran. Bon, c'était Clark Gable, on a évoqué tout à l'heure Autant emporte le vent, donc une des plus grandes vedettes du cinéma américain de tous les temps. Et Marilyn Monroe, quant à elle, eh bien, elle va lui survivre un an et demi à peu près, mais par contre, elle ne tournera plus d'autres films après Les Désaxés, puisque, comme on le sait sans doute, le film suivant qu'elle entreprendra, Something's Got to Give, Quelque chose doit craquer, des fois il y a des coïncidences qui n'en sont pas vraiment, qui avait été initié par Georges Cukor, et bien fut interrompu par son suicide, sa mort, qu'il saura jamais un jour. En tout cas, Les Désaxés, c'est aussi son dernier film. Alors, je ne vous rassure pas, mais j'arrête un petit peu cet océan de larmes. Ce ne fut pas le dernier film de Montgomery Clift, puisque l'homme survivra encore presque 5 ans à ses démons intérieurs, à sa maladie, à son mal-être. Mais dans les 5 ans qui suivirent, il ne tournera plus que 3 films. D'ailleurs, un seul des 3 est vraiment important. En 1961, on le verra dans Jugement à Nuremberg, un film de Stanley Kramer consacré, comme son titre l'indique, eh bien, au jugement après-guerre des criminels nazis. Comme il s'agit d'une superproduction avec énormément de personnages et avec Spencer Tracy dans le rôle principal, Montgomery Clift n'est pas un des vedettes de ce film. Et puis en 1966, il tournera ce qui sera son dernier film, L'Espion, un film de Raoul Levy. Et il nous quittera le 23 juillet 1966, victime d'une crise cardiaque, mais surtout victime d'une vie très tourmentée, à la fois mentalement et physiquement. Il n'avait que 46 ans, puisque, comme vous l'avez entendu, il était né en octobre 1920. Alors, on ne va pas se quitter sur cette petite note funèbre, on va se quitter avec un compositeur dont les fans de 24 notes secondes savent qu'il est mon maître, tout comme son maître fut Alex North, dont on vient d'écouter un extrait. Ça tombe bien, puisqu'en 1962, Montgomery Clift retrouva John Huston pour un film adapté de la vie de Freud, tout simplement, en tout cas une partie de la vie de Freud. Ça s'appelait Freud, Passion secrète en français. Montgomery Clift y tenait le rôle du bon docteur. Au départ, le scénario devait être écrit et tourné par Jean-Paul Sartre, mais Jean-Paul Sartre livra un scénario, comment dire, un peu conséquent, qui aurait nécessité, comment dire, 8 heures de tournage. Maintenant, on en ferait une série Netflix. Jean-Paul Sartre sur Netflix, je ris. Et évidemment, il n'en fut rien, ce qui induisit une brouille assez conséquente entre John Huston et Jean-Paul Sartre. Ma foi, le film tel qu'il est illustre un aspect de la vie de Freud, quoi qu'on peut penser, et de la vie de Freud, et de la façon dont elle est présentée. Ce qu'on retient surtout, c'est 2 choses. D'abord, la magnifique photographie signée par Douglas Slocombe, un noir et blanc très velouté et qui, d'une certaine manière, restitue mieux peut-être que les images et l'histoire la passion de l'inconscient qui est celle de Freud. Et puis on en retient la musique de Jerry Goldsmith, notre compositeur préféré, qui obtint à cette occasion, sauf erreur de ma part, sa première nomination à l'Oscar. On va écouter un extrait de cette bande originale. Il est de tradition dans cette émission de ne pas parler et de ne pas dire au revoir quand il s'agit des musiques de Jerry Goldsmith. Donc c'est maintenant, en saluant une dernière fois Monty Clift, que je vous dis au revoir. À bientôt, see you, bye bye.